Carrefour de l'info sur Arabelle.
Et dans votre carrefour de l'information, on parle aujourd'hui tabac et vapotage. Dans quelques jours, le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Et pour nous en parler, nous avons avec nous pas mal de monde aujourd'hui. Aurélie et Pauline, chargée prévention et santé Bassin du Nord, bonjour.
Bonjour.
Et également avec nous Gilson Laurence, qui est tabacologue à Bordeaux, Erasme et l'ULB. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Arabelle. Avant d'aller plus loin, je m'adresse vers vous, Aurélie et Pauline. Vous présentez peut-être en quelques mots.
Oui, alors donc nous sommes des chargés de projet prévention et promotion santé chez Brusano, qui est une ASBL bicommunautaire. Et c'est une ASBL qui vient en soutien des professionnels du social de la santé dans la région de Bruxelles.
Mmh. Alors pourquoi parler justement du tabac aujourd'hui ?
Alors le tabac, c'est quelque chose auquel on est confronté chaque jour. Il y a vraiment un enjeu de santé publique. Donc on sait que dans tout notre entourage, il peut y avoir des personnes qui fument. Et donc voilà, aujourd'hui on voulait en parler parce que c'est aussi le mois de mai.
Mm-hmm. Ouais. Et en basique, on voit aussi qu'il y a 9 000 personnes qui meurent chaque année. Donc ça veut dire une personne par heure.
Mm-hmm. Alors un mois de mai sans tabac, fin mai, juin, pourquoi on parle autant du tabac aujourd'hui, dans cette période de l'année?
Alors, est-ce que c'est peut-être l'arrivée des beaux jours qui fait qu'on a plus des envies d'être en terrasse, il y a aussi cette ouverture vers l'extérieur, mais c'est aussi donc plus de consommateurs peut-être à l'extérieur, mais aussi parce que l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, a fixé le 31 mai comme la journée mondiale de sensibilisation au tabagisme, mais aussi pour sensibiliser les personnes aux dangers et risques du tabac.
Alors, je me tourne vers vous, Gilson Laurence. Qui fume aujourd'hui? C'est un peu tout le monde, les grands, les petits, les moins jeunes. Est-ce que le nombre de fumeurs est en augmentation ou en baisse?
Alors, on remarque qu'il y avait toute une part de la population qui était en train d'arrêter. Je trouve que c'est surtout dans les 30 ans, comme ça, ils s'arrêtaient de plus en plus. Et puis, il y a de nouveau une nouvelle vague de jeunes qui recommence avec les cigarettes électroniques aussi, après le Covid. Hein. Mm-hmm. Et une sorte de nouvelle vague. Je ne sais pas exactement les chiffres maintenant. Vous les connaissez bien.
Oui, toi tu avais des chiffres.
Donc, en fait, en Belgique, il y a 19 personnes qui fument. C'était le chiffre de 2018. Mais on voit, comme mes collègues disent, on voit quand même une baisse.
Oui. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une baisse qui se notifie d'année en année. J'avais vu aussi 12% en moins chaque année. Oui. Donc il y a une tendance quand même à la baisse, mais il y a quand même encore beaucoup de décès.
Alors ne bougez surtout pas, on va marquer une courte pause et on revient juste après.
Bien. Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Voilà, et on retrouve nos invités, notamment Gilson Laurence, qui est tabacologue à Bordeaux, Erasme ULB. Et je reviens sur cette question, on parlait en off, il n'y a pas que les fumeurs, il y a d'autres catégories, c'est bien ça?
Oui, les vapoteurs, mais on entend cigarettes électroniques, donc c'est des fumeurs aussi, en fait. Hein. Et c'est souvent les gens, donc tout jeunes qui commencent avec les cigarettes électroniques, on remarque que c'est vraiment une porte d'entrée vers le fumage normal aussi. Donc en fait, souvent, c'est des jeunes qui vont commencer 2-3 ans plus tard avec la cigarette normale.
Oui, et de base, en fait, le vapotage aussi, les jeunes ne sont pas habitués à avoir cette nicotine, et puis là, c'est créé le mécanisme de dépendance à la nicotine, et donc c'est pour ça aussi
dépendance
que...
psychologique, physique, voilà. Et comportementale.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des disparités par rapport aux régions chez nous, en termes de fumeurs? Est-ce qu'il y a des milieux plus précaires que d'autres?
Donc en fait, on voit en Flandre qu'il y a moins de fumeurs qu'à Bruxelles ou en Wallonie, et on voit aussi qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui fument. Oui. Et donc, dans le cas de précarité, on voit aussi les gens plus dans une situation précaire, ils fument plus que les autres personnes.
Mm-hmm. Alors, une autre facette de cette problématique, le coût du tabac. À ce que fumer coûte vraiment, vraiment cher aujourd'hui?
Alors, ça coûte de plus en plus cher. Je crois que sur 10 ans de temps, ça a augmenté de manière exponentielle. Le paquet de cigarettes, je pense qu'il est à 12-13 euros. Et donc, en moyenne, un fumeur dépense presque 3 000 euros par an.
Ça peut être donc un argument pour arrêter de fumer.
Oui, l'enjeu financier, évidemment, c'est un moyen de motiver à l'arrêt du tabac. Oui, c'est pas négligeable.
Alors, plus important, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fume, Ghislaine Laurence? Comme concrètement, que provoque la cigarette dans notre organisme?
Donc, quand on inhale cette fumée de cigarette, il y a 4600 composants qui rentrent dans notre corps. Il y a une partie qui va partir dans l'expiration, mais il y a du plomb, du polonium, de l'arsenic, du goudron, de la nicotine, beaucoup, beaucoup de choses, dont le CO aussi, le gaz inodore, incolore, insipide, qui va manger votre oxygène. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de substances qui vont rentrer. Elles vont devoir être éliminées, toutes ces substances. Il n'y a pas de vitamine C ou D là-dedans. Donc, tout va être éliminé par les reins, par les selles, par les urines, par les selles. Donc, oui, chaque cellule est touchée par toutes ces substances qui vont être inhalées dans la cigarette.
Et quelles conséquences sur la santé?
Alors, évidemment, moi, je travaille depuis plus de 20 ans à Bordeaux, c'est qui est l'hôpital du cancer, hein, à Bruxelles. Je travaille aussi à Erasme et à l'ULB. Mais à Bordeaux, donc, je vois, il y a une dizaine de cancers qui sont provoqués par le fumage. Et il y a toutes les maladies coronariennes, les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, quand vous inhalez beaucoup de CO qui est dans cette cigarette, le CO mange votre oxygène et donc vous êtes en hypoxie. C'est comme si on vous mettait un sac plastique sur la tête. Et donc vasoconstriction des vaisseaux, manque d'oxygène, plus de risque de faire un infarctus, AVC, des thromboses. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'organes qui sont touchés. Mm-hmm. Ouais.
Nous, justement, sur le terrain, les personnes qu'on côtoie et qui nous partagent le fait qu'ils fument, etc., ils nous partagent aussi le fait qu'ils sont vite essoufflés, qu'ils ont du mal à parcourir des longues distances, enfin, longues et moyennes, petites et moyennes longues distances. Et ça, voilà, c'est, je pense, aussi un impact de la consommation de tabac.
Il y a aussi les troubles de la fertilité, il ne faut pas l'oublier.
Tout à fait, tout à fait.
Mm. Alors, oui.
Oui, justement, il y a à Erasme, je suis souvent contactée par la PMA et tout ça pour aider certains jeunes qui veulent avoir des enfants.
Alors, le vapotage à présent, la cigarette électronique, est-ce qu'elle est, disons, moins dangereuse que la cigarette classique?
Alors, il y a quand même moins de risques parce qu'il n'y a pas toutes ces substances toxiques, mais il y a quand même de la nicotine dans ces liquides. Aussi, les études, on n'a pas assez de recul pour l'instant pour démontrer la toxicité de la consommation de la vape. Mais voilà, ce n'est pas que de l'eau qu'on inhale. Il y a plein de substances et aussi dans ces liquides, on va mettre des éléments qui vont donner un goût sympa. Donc oui, c'est moins nocif, mais après, si une personne passe au vapotage, elle va continuer à garder cette habitude d'inhaler des substances, hein, une fumée.
Mm-hmm. Oui, donc il y a la nicotine, c'est vrai qu'elle ne donne pas de cancer, la nicotine, mais elle entretient la dépendance qui est assez forte, très, très vite. Hein. Mm-hmm. L'OMS l'a classifiée dans les drogues dures maintenant, la nicotine, tellement que c'est difficile de s'en défaire, et tellement que c'est rapide aussi dans l'addiction. Mais alors, il y a le propylène glycol, qui est l'élément gras dans la cigarette électronique, qui se met aussi dans le fin fond de vos alvéoles et qui nos alvéoles ne demandent que de l'oxygène. Et les métaux qui sont donc là, il y a quelque chose qui est tout le temps chauffé, tous ces métaux sont chauffés et on trouve des traces de métaux dans le liquide et ces arômes qui sont des arômes alimentaires qui n'ont pas été faits à être inhalés dans les poumons aussi.
Oui. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être attrayant, surtout pour les jeunes, parce que ça peut être fun, c'est sympa, ça sent bon, c'est pas très grave, c'est pas une cigarette, donc voilà, c'est un peu trop normalisé.
Alors pourquoi on commence finalement à fumer? Qu'est-ce qui pousse par exemple les jeunes et les adultes à commencer à griller cette première cigarette?
Donc en fait, on voit l'influence des amis, de la famille, évidemment, le besoin d'intégration sociale, le stress, ou parfois, en fait, on veut être comme les autres adultes, on veut avoir des amis, etc. Et donc, chez certains jeunes, le tabac peut être associé à une image de confiance, d'être cool, parfois.
C'est facile de commencer. Alors pourquoi c'est aussi difficile d'arrêter? Et pourquoi l'arrêt du tabac, finalement, reste très compliqué, finalement?
C'est dû à ces trois... dépendance qu'a la cigarette, en fait. Il y a la dépendance physique, qui est la nicotine, en fait, la drogue, hein, qu'on a besoin tous les X temps à consommer pour se sentir bien. Ça, c'est plus ou moins 30% de la dépendance physique. Et puis, alors, la dépendance psychologique et comportementale. Psychologique, c'est plutôt nos émotions, nos stress, Les fameuses dopamine et aussi les fameuses adrénaline et cortisol qui montent en flèche et qui sont désagréables dans le corps, ça va calmer un petit peu cette cigarette. Et alors, il y a le comportement, quand on fume 20 cigarettes par jour, on tire plus ou moins 10 fois dessus, c'est 200 fois par jour qu'on emmène notre 11e doigt à la bouche, donc c'est très puissant en fait. Oui. Donc la dépendance psychologique et comportementale est très très puissante, c'est de l'ordre de 70% de l'addiction. Oui.
On entend souvent justement des personnes qui associent, qui ont vraiment des routines et des rituels.
C'est ça.
Je mange, donc je fume après, je suis stressée, je fume, je suis triste, je fume. Et c'est cette combinaison en fait que le cerveau finalement enregistre, une association de deux actions.
Le café.
Voilà, café, cigarette. Mais ce sont des mauvaises associations.
Alors comment savoir si on est dépendant? Quels sont, disons, les signes avant-coureurs d'une dépendance à la nicotine?
Quand on voit qu'on a un besoin, par exemple, de fumer, quand on devient irritable sans cigarette ou qu'on a du mal à passer certaines situations sans tabac, ce sont des signes qui peuvent montrer qu'il y a quand même une dépendance.
Mm-hmm. On parlait tout à l'heure du côté financier. Si on arrête, on économise pas mal de sous. Quels sont les bénéfices quand on arrête sur le plan de la santé, bien sûr? Qu'est-ce que le corps récupère, disons, plus ou moins rapidement?
Alors, par exemple, le CO, lui, il est déjà libéré après 2-3 jours d'arrêt. Donc ça, c'est génial. Je mesure le CO quand les patients viennent. Et c'est vrai que c'est le premier cadeau qu'on a quand on arrête de fumer. On est dans le rouge quand on fume et puis on devient vraiment... On retourne dans le vert après avoir arrêté. Donc ça, c'est chouette. Mm-hmm. Déjà, le CO, donc ça entraîne meilleur souffle, meilleure énergie, on dort mieux. Il y a beaucoup de petits avantages rapides.
D'autres avantages?
Oui, alors amélioration de l'odorat et du goût. Ça c'est aussi chouette, je pense, pour des fumeurs qui arrêtent, ils commencent à plus apprécier aussi la nourriture. C'est aussi une source de dopamine, parce que le mécanisme de cette dépendance est de toujours avoir cette dose de dopamine, mais on peut la retrouver ailleurs en s'alimentant bien, mais aussi, comme disait Laurence, on a une meilleure condition physique, donc on peut marcher plus, on peut un peu bouger plus, et cette mise en mouvement du corps va permettre de libérer naturellement de la dopamine.
Alors justement, quel premier conseil à donner? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui veut rater?
Mais en fait, c'est important d'abord de ne pas rester seul. Hein. On peut observer les habitudes de la personne et surtout motiver la personne, évidemment. Avoir, par exemple, un plan, un objectif, ça peut aider. Ensuite, il est aussi important de fixer un objectif réaliste, comme boire de l'eau, marcher, faire du sport, marcher un chewing-gum, etc. Donc, en fait, chercher de nouvelles routines.
Parfois, tout cela, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut trouver de l'aide ailleurs? Vers qui on peut se tourner, finalement?
La première personne vers qui se tourner, c'est évidemment son médecin traitant. Le médecin traitant va pouvoir déjà donner pas mal d'informations, etc., ou de conseils, ou rediriger vers un professionnel de la santé, comme les tabacologues. Mm-hmm. Il y a aussi la ligne Tabastop, oui. Qui existe et qui est à disposition, qui est gratuite aussi.
Le numéro de Tabastop, c'est 0800 111 100. Et donc, en fait, on peut le contacter gratuitement entre 3 et 9 heures. Entre 3 et 7 heures, pardon. Oui.
Il y a aussi des psys de première ligne qui existent et qui sont conventionnés et qui sont vraiment compétents par rapport à l'addiction. C'est aussi une source importante.
Et les tabacologues, on peut aussi les trouver sur Fares ou sur le site de Respiratoire avec son tête.
Alors, il y a aussi tous les clichés, les stéréotypes qui sont coriaces, collés aux fumeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un proche qui veut arrêter et que peut faire son entourage?
Alors, moi, j'ai remarqué qu'il y a une question qu'on peut poser à l'entourage pour qu'il ne juge pas la personne, parce que parfois, ça peut être difficile, c'est de dire, tiens, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter de fumer? C'est une question qui est ouverte, non jugeante, et en fait, on s'intéresse à la personne, et pourquoi est-ce qu'elle fume, qu'est-ce que ça lui procure, etc. Est-ce qu'elle connaît les dangers de la cigarette, et ça permet d'enclencher un certain dialogue et donc surtout un climat de confiance.
Est-ce qu'il y a des fausses croyances, des idées reçues que vous entendez parfois souvent?
Oui, d'office je vais grossir, ou d'office je vais être énervé, stressé. Non, quand on est bien accompagné, quand on fait attention évidemment par exemple, à bien prendre ses substituts aussi si on est fort dépendant physiquement. Mm-hmm. Il y a très peu de dommages collatéraux, en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais il faut être bien accompagné. C'est vrai, bien préparer le terrain avant d'arrêter pour que ce soit le plus doux possible. Mm-hmm.
On se rend compte aussi que les personnes, justement, ils ont parfois aussi du mal à avouer que c'est difficile. Alors, je pense qu'arrêter seul, ce n'est pas impossible. Arrêter de accompagner, ce n'est pas impossible non plus. Donc, en fait, une fois que la volonté s'est installée, il suffit parfois de quelques déclics, une bonne dose de volonté et peut-être voilà, se fixer des objectifs, ne pas avoir son focus sur cette cigarette qui va nous manquer, mais plutôt avoir un objectif sur autre chose, un projet de vie, un projet, n'importe quel projet, et mesurable et quantifiable dans le temps.
Voilà, justement, le temps, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une dernière question avant de nous quitter, si vous avez un message ou un conseil à donner à toutes celles et ceux qui veulent arrêter de tirer sur cette cigarette.
Arrêter de fumer est difficile, mais c'est vraiment possible. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez donc trouver de l'aide chez les professionnels comme le médecin, le tabacologue. Et donc chaque réduction de consommation est déjà une victoire pour la santé.
Et puis c'est le plus beau cadeau qu'on fait à soi-même, en fait, d'arrêter de fumer.
Oui.
Voilà, c'était la conclusion de Gilson Laurence. Je rappelle que vous êtes tabacologue à Bordeaux, Erasme et l'ULB étaient avec nous également. Aurélie et Pauline, chargées de projets en prévention et promotion de la santé chez Bruxano, dans le bassin nord-est de Bruxelles, qui couvre, je le rappelle, Evere, Scarbeck et Saint-Justin-Node. Merci en tout cas pour votre éclairage.
Merci.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'Info.